37 de Hobbes. Profond et bizarre philosophe, bon citoyen, esprit hardi, ennemi de Descartes, toi qui t'es trompé comme lui, toi dont les erreurs en physique sont grandes et pardonnables parce que tu étais venu avant Newton, toi qui as dit des vérités qui ne compensent pas tes erreurs, toi qui, le premier, fit voir quelle est la chimère des idées innées, toi qui fus le précurseur de Locke en plusieurs choses, mais qui le fut aussi de Spinoza, c'est en vain que tu étonnes tes lecteurs en réunissant presque à leur prouver qu'il n'y a aucune loi dans le monde que les lois de convention, qu'il n'y a de juste et d'injuste que ce qu'on est convenu d'appeler tel dans un pays. Si tu t'étais trouvé seul avec Cromwell dans une île déserte, et que Cromwell eût voulu te tuer pour avoir pris le parti de ton roi dans l'île d'Angleterre, cet attentat ne t'aurait-il pas paru aussi injuste dans la nouvelle île qui te l'aurait paru dans ta patrie? Tu dis que dans la loi de nature, tous ayant droit à tout, chacun a droit sur la vie de son semblable. Ne confonds-tu pas la puissance avec le droit? Penses-tu qu'en effet le pouvoir donne le droit et qu'un fils robuste n'ait rien à se reprocher pour avoir assassiné son père languissant et décrépit? Quiconque étudie la morale doit commencer à réfuter ton livre dans son cœur. Mais ton propre cœur te réfutait encore davantage, car tu fus vertueux ainsi que Spinoza, et il ne te manqua, comme à lui, que d'enseigner les vrais principes de la vertu que tu pratiquais et que tu recommandais aux autres. Morale universelle. La morale me paraît tellement universelle, tellement calculée par l'être universel qui nous a formés, tellement destinée à servir de contrepoids à nos passions funestes et à soulager les peines inévitables de cette courte vie, que depuis Zoroastre jusqu'au Lord Shaftesbury, je vois tous les philosophes enseigner la même morale, quoiqu'ils aient tous des idées différentes sur les principes des choses. Nous avons vu que Hobbes, Spinoza et Bell lui-même, qui ont ou nié les premiers principes ou qui en ont douté, ont cependant recommandé fortement la justice et toutes les vertus. Chaque nation eut des rites religieux particuliers, et très souvent d'absurdes et de révoltantes opinions en métaphysique et en théologie. Mais il s'agit-il de savoir s'il faut être juste? Tout l'univers est d'accord, comme nous l'avons dit à la question 36, et comme on ne peut trop le répéter. 39 de Zoroastre. Je n'examine point en quel temps vivait Zoroastre, à qui les Perses donnèrent 9000 ans d'antiquité, ainsi que Platon aux anciens Athéniens. Je vois seulement que ces préceptes de morale se sont conservés jusqu'à nos jours. Ils sont traduits de l'ancienne langue des mages dans la langue vulgaire des guèbres, et il paraît bien aux allégories puériles, aux observances ridicules, aux idées fantastiques dont ce recueil est rempli, que la religion de Zoroastre est de l'antiquité la plus haute. C'est là qu'on trouve le nom de « jardin » pour exprimer la récompense des justes. On y voit le mauvais principe sous le nom de « Satan » que les Juifs adoptèrent aussi. On y trouve le monde formé en 6 saisons ou en 6 temps. Il est ordonné de réciter un Abunavar et un Ashimvulnu pour ceux qui éternuent. Mais enfin, dans ce recueil de 100 portes, ou préceptes tirés du livre du Zend, et où l'on rapporte même les propres paroles de l'ancien Zoroastre, quels devoirs moraux sont prescrits? Celui d'aimer, de secourir son père et sa mère, de faire l'aumône aux pauvres, de ne jamais manquer à sa parole, de s'abstenir quand on est dans le doute si l'action qu'on va faire est juste ou non. Porte 30. Je m'arrête à ce précepte parce que nul législateur n'a jamais pu aller au-delà. Et je me confirme dans l'idée que plus Zoroastre établit de superstitions ridicules en fait de culte, plus la pureté de sa morale fait voir qu'il n'était pas en lui de la corrompre, et que plus il s'abandonnait à l'erreur dans ses dogmes, plus il lui était impossible d'errer en enseignant la vertu. Des brahmanes. Il est vraisemblable que les brahmes ou brahmanes existaient longtemps avant que les Chinois eussent leurs cinq kings. Et ce qui fonde cette extrême probabilité, c'est qu'à la Chine, les antiquités les plus recherchées sont indiennes et que dans l'Inde, il n'y a point d'antiquité chinoise. Ces anciens brahmes étaient sans doute d'aussi mauvais métaphysiciens, d'aussi ridicules théologiens que les Chaldéens et les Perses, et toutes les nations qui sont à l'occident de la Chine. Mais quelle sublimité dans la morale! Selon eux, la vie n'était qu'une mort de quelques années après laquelle on vivrait avec la divinité. Ils ne se bornaient pas à être justes envers les autres, mais ils étaient rigoureux envers eux-mêmes. Le silence, l'abstinence, la contemplation, le renoncement à tous les plaisirs étaient leurs principaux devoirs. Aussi, tous les sages des autres nations allaient chez eux apprendre ce qu'on appelait la sagesse. 41. De Confucius. Les Chinois n'eurent aucune superstition, aucun charlatanisme à se reprocher comme les autres peuples. Le gouvernement chinois montrait aux hommes, il y a fort au-delà de 4000 ans, et leur montre encore qu'on peut les régir sans les tromper, que ce n'est pas par le mensonge qu'on sert le Dieu de vérité, que la superstition est non seulement inutile, mais nuisible à la religion. Jamais l'adoration de Dieu ne fut si pure et si sainte qu'à la Chine, à la révélation près. Je ne parle pas des sectes du peuple, je parle de la religion du prince, de celle de tous les tribunaux et de tout ce qui n'est pas populace. Quelle est la religion de tous les honnêtes gens dans la Chine depuis tant de siècles? Vous la voici. Adorez le ciel et soyez justes. Aucun empereur n'en a eu d'autre. On place souvent le grand Confucius, que nous nommons Confucius, parmi les anciens législateurs, parmi les fondateurs de religion. C'est une grande inadvertance. Confucius est très moderne. Il ne vivait que 650 ans avant notre ère. Jamais il n'institua aucun culte, aucun rite. Jamais il ne se dit ni inspiré ni prophète. Il ne fit que rassembler en accord les anciennes lois de la morale. Il invite les hommes à pardonner les injures et à ne se souvenir que des bienfaits, à veiller sans cesse sur soi-même, à corriger aujourd'hui les fautes d'hier, à réprimer ses passions et à cultiver l'amitié, à donner sans faste et à ne recevoir que l'extrême nécessaire sans bassesse. Il ne dit point qu'il ne faut pas faire à autrui ce que nous ne voulons pas qu'on fasse à nous-mêmes. Ce n'est que défendre le mal. Il fait plus. Il recommande le bien. Traite autrui comme tu veux qu'on te traite. Il enseigne non seulement la modestie, mais encore l'humilité. Et il recommande toutes les vertus. 42. Des philosophes grecs et d'abord de Pythagore. Tous les philosophes grecs ont dit des sottises en physique et en métaphysique. Mais tous sont excellents dans la morale. Tous égales Zoroastre, Confucius et les brahmanes. Lisez seulement les vers dorés de Pythagore. C'est le précis de sa doctrine. Il importe de quelle main il soit. Dites-moi si une seule vertu est oubliée. 43 de Zaleucus. Réunissez tous vos lieux communs, prédicateurs, grecs, italiens, espagnols, allemands, français, etc. Qu'en disent-ils toutes vos déclamations? En tirera-t-on un extrait qui soit plus pur que l'exorde des lois de Zaleucus? Maîtrisez votre âme, purifiez-la, écartez toute pensée criminelle. Croyez que Dieu ne peut être bien servi par les pervers. Croyez qu'il ne ressemble pas aux faibles mortels, que les louanges et les présents séduisent. La vertu seule peut lui plaire. Voilà le précis de toute morale et de toute religion. XLIV d'Épicure. Des pédants de collège, des petits maîtres de séminaire ont cru, sur quelques plaisanteries d'Horace et de Pétrone, qu'Épicure avait enseigné la volupté par les préceptes et par l'exemple. Épicure fut toute sa vie un philosophe sage, tempérant et juste. Dès l'âge de 12 à 13 ans, il fut sage, car lorsque le grammairien qui l'instruisait lui récita ce vers d'Hésiode, le chaos fut produit le premier de tous les êtres. « Et qui le produisit ?» dit Épicure, « puisqu'il était le premier. »« Oh, je n'en sais rien, » dit le grammairien, « il n'y a que les philosophes qui le sachent. »« Je vais donc m'instruire chez eux, » repartit l'enfant. Et depuis ce temps-là, jusqu'à l'âge de 72 ans, il cultiva la philosophie. Son testament, que Diogène de Laërce nous a conservé tout entier, découvre une âme tranquille et juste. Il a franchi les esclaves qu'il croit avoir mérité cette grâce. Il recommande à ses exécuteurs testamentaires de donner la liberté à ceux qui en rendront dignes. Point d'ostentation, point d'injuste préférence. C'est la dernière volonté d'un homme qui n'en a jamais eu que de raisonnable. Seul de tous les philosophes, il eut pour ami tous ses disciples, et sa secte fut la seule où l'on sut aimer et qui ne se partagea point en plusieurs autres. Il paraît, après avoir examiné sa doctrine et ce qu'on en a écrit pour et contre lui, que tout se réduit à la dispute entre Malebranche et Arnaud. Malebranche avouait que le plaisir rend heureux, Arnaud le niait. C'était une dispute de mots, comme tant d'autres disputes, où la philosophie et la théologie apportent leur incertitude, chacun de son côté. 45. Les Stoïciens. Si les épicuriens rendirent la nature humaine aimable, les stoïciens la rendirent presque divine. Résignation à l'être des êtres, ou plutôt élévation de l'âme jusqu'à cet être, mépris du plaisir, mépris même de la douleur, mépris de la vie et de la mort, inflexibilité dans la justice, tel était le caractère des vrais stoïciens, et tout ce qu'on a pu dire contre eux, c'est qu'ils décourageaient le reste des hommes. Socrate, qui n'était pas de leur secte, fit voir qu'on pouvait pousser la vertu aussi loin qu'eux, sans être d'aucun parti. Et la mort de ce martyr de la divinité est l'éternel opprobre d'Athènes, quoiqu'elle s'en soit repentie. Le stoïcien Caton est d'un autre côté l'éternel honneur de Rome. Épictète dans l'esclavage est peut-être supérieur à Caton, en ce qu'il est toujours content de sa misère. « Je suis, dit-il, dans la place où la Providence a voulu que je fusse. M'en plaindre, c'est l'offenser. » Dirais-je que l'empereur Antonin est encore au-dessus d'Épictète parce qu'il triompha de plus de séduction et qu'il était bien plus difficile à l'empereur de ne pas se corrompre qu'à un pauvre de ne pas murmurer. Lisez les pensées de l'un et de l'autre. L'empereur et l'esclave vous paraîtront également grands. Oserais-je parler ici de l'empereur Julien? Il erra sur le dogme, mais certes, il n'errera pas sur la morale. En un mot, nul philosophe dans l'Antiquité qui n'ait voulu rendre les hommes meilleurs. Il y a eu des gens parmi nous qui ont dit que toutes les vertus de ces grands hommes n'étaient que des péchés illustres. Puisse la terre être couverte de tels coupables. XLVI. Philosophie et vertu. Il y eut des sophistes qui furent aux philosophes ce que les singes sont aux hommes. Lucien se moqua d'eux. On les méprisa. Ils furent à peu près ce qu'ont été les moines mendiants dans les universités. Mais n'oublions jamais que tous les philosophes ont donné de grands exemples de vertu et que les sophistes et même les moines ont tous respecté la vertu dans leurs écrits. XLVII. D'Ésope. Je placerai Ésope parmi ces grands hommes, et même à la tête de ces grands hommes, soit qu'il ait été le Pilpaï des Indiens, ou l'ancien précurseur de Pilpaï, ou le Lokman des Perses, ou le Hakim des Arabes, ou le Hacham des Phéniciens, il importe. Je vois que ces fables ont été en vogue chez toutes les nations orientales, et que l'origine s'en perd dans une antiquité dont on ne peut sonder l'abîme. À quoi tendent ces fables aussi profondes qu'ingénues, ces apologues qui semblent visiblement écrits dans un temps où l'on ne doutait pas que les bêtes n'eussent un langage? Elles ont enseigné presque tout notre hémisphère. Ce ne sont point des recueils de sentences fastidieuses qui lassent plus qu'elles n'éclairent. C'est la vérité elle-même avec le charme de la fable. Tout ce qu'on a pu faire, c'est d'y ajouter des embellissements dans nos langues modernes. Cette ancienne sagesse est simple et nue dans le premier auteur. Les grâces naïves dont on l'a ornée en France n'en ont point caché le fond respectable. Et que nous apprennent toutes ces fables? Qu'il faut être juste. 48. De la paix née de la philosophie. Puisque tous les philosophes avaient des dogmes différents, il est clair que le dogme et la vertu sont d'une nature entièrement hétérogène. Qu'ils crussent ou non que Thétis était la déesse de la mer, qu'ils fussent persuadés ou non de la guerre des géants et de l'âge d'or, de la boîte de Pandore et de la mort du serpent Python, etc., ces doctrines n'avaient rien de commun avec la morale. C'est une chose admirable dans l'Antiquité que la théogonie n'ait jamais troublé la paix des nations. 49. Autre question. Ah, si nous pouvions imiter l'Antiquité, si nous faisions enfin à l'égard des disputes théologiques ce que nous avons fait au bout de 17 siècles dans les belles lettres. Nous sommes revenus au goût de la saine Antiquité après avoir été plongés dans la barbarie de nos écoles. Jamais les Romains ne furent assez absurdes pour imaginer qu'on pût persécuter un homme parce qu'il croyait le vide ou le plein, parce qu'il prétendait que les accidents ne peuvent pas subsister sans sujet, parce qu'il expliquait en un sens un passage d'un auteur qu'un autre entendait dans un sens contraire. Nous avons recours tous les jours à la jurisprudence des Romains, et quand nous manquons de loi, ce qui nous arrive si souvent, nous allons consulter le code et le digeste. Pourquoi ne pas imiter nos maîtres dans leur sage tolérance? Qu'importe à l'État qu'on soit du sentiment des réaux ou des nominaux, qu'on tienne pour Scott ou pour Thomas, pour Ecolampan ou pour Mélenchon, qu'on soit du parti d'un évêque d'Ypres qu'on n'a point lu, ou d'un moine espagnol qu'on n'a point lu encore. N'est-il pas clair que tout cela doit être aussi indifférent au véritable intérêt d'une nation que de traduire bien ou mal un passage de Lycophron ou d'Hésiode? 50 autres questions. Je sais que les hommes sont quelquefois malades du cerveau. Nous avons eu un musicien qui est mort fou parce que sa musique n'avait pas paru assez bonne. Des gens ont cru avoir un nez de verre, mais s'il y en avait d'assez attaqués pour penser, par exemple, qu'ils ont toujours raison, y aurait-il assez d'éléments pour une aussi étrange maladie? Et si ces malades, pour soutenir qu'ils ont toujours raison, menaçaient du dernier supplice quiconque pense qu'ils peuvent avoir tort, s'ils établissaient des espions pour découvrir les réfractaires, s'ils décidaient qu'un père, sur le témoignage de son fils, une mère, sur celui de sa fille, doit périr dans les flammes, etc., etc., ne faudrait-il pas lier ces gens-là et les traiter comme ceux qui sont attaqués de la rage? Ignorance. Oh, vous me demandez à quoi bon tout ce sermon si l'homme n'est pas libre. D'abord, je ne vous ai point dit que l'homme n'est pas libre. Je vous ai dit que sa liberté consiste dans son pouvoir d'agir, et non pas dans le pouvoir chimérique de vouloir. Ensuite, je vous dirai que, tout étant lié dans la nature, la Providence éternelle me prédestinait à écrire ces rêveries, et prédestinait 5 ou 6 lecteurs à en faire leur profit, et 5 ou 6 autres à les dédaigner et à les laisser dans la foule immense des écrits inutiles. Si vous me dites que je ne vous ai rien appris, souvenez-vous que je me suis annoncé comme un ignorant. 52. Autres ignorances. Je suis si ignorant que je ne sais même pas les faits anciens dont on me berce. Je crains toujours de me tromper de 700 à 800 années, au moins, quand je cherche en quel temps ont vécu ces antiques héros qu'on dit avoir exercé les premiers le vol et le brigandage dans une grande étendue de pays, et ces premiers sages qui adorèrent des étoiles ou des poissons, ou des serpents, ou des morts, ou des êtres fantastiques. Quel est celui qui le premier imagina les Sigahammas, et le pont de Chichinabar, et le Dardaroth, et le lac de Caron? En quel temps vivaient les premiers Bacchus, le premier Hercule, le premier Orphée? Toute l'Antiquité est si ténébreuse jusqu'à Thucydide et Xénophon, que je suis réduit à ne savoir presque pas un mot de ce qui s'est passé sur le globe que j'habite avant le court espace d'environ 30 siècles. Et dans ces 30 siècles encore, que d'obscurité, que d'incertitude, que de fables. 53. Plus grande ignorance. Mon ignorance me pèse bien davantage quand je vois que ni moi ni mes compatriotes, nous ne savons absolument rien de notre patrie. Ma mère m'a dit que j'étais né sur les bords du Rhin. Je le veux croire. J'ai demandé à mon ami le savant Apédotès, natif de Courland, s'il avait connaissance des anciens peuples du Nord, ses voisins, et de son malheureux petit pays. Il m'a répondu qu'il n'en avait pas plus de notion que les poissons de la mer Baltique. Pour moi, tout ce que je sais de mon pays, c'est que César dit, il y a environ 1800 ans, que nous étions des brigands qui étions dans l'usage de sacrifier des hommes à je ne sais quel dieu pour obtenir d'eux quelques bonnes proies, et que nous n'allions jamais en course qu'accompagnés de vieilles sorcières qui faisait ses beaux sacrifices. Tacite, un siècle après, dit quelques mots de nous, sans nous avoir jamais vus. Il nous regarde comme les plus honnêtes gens du monde en comparaison des Romains, car il assure que quand nous n'avions personne à voler, nous passions les jours et les nuits à nous enivrer de mauvaises bières dans nos cabanes. Depuis ce temps de notre âge d'or, c'est un vide immense jusqu'à l'histoire de Charlemagne. Quand je suis arrivé à ces temps connus, je vois dans Goldast une charte de Charlemagne datée d'Aix-la-Chapelle, dans laquelle ce savant empereur parle ainsi. Vous savez que, chassant un jour auprès de cette ville, je trouvais les thermes et le palais que Gradus, frère de Néron et d'Agrippa, avait autrefois bâti. Ce Gradus et ce Agrippa, frère de Néron, me font voir que Charlemagne était aussi ignorant que moi, et cela soulage. 54. Ignorance ridicule. L'histoire de l'Église de mon pays ressemble à celle de Gradus, frère du Néron et d'Agrippa, et est bien plus merveilleuse. Ce sont de petits garçons ressuscités, des dragons pris avec une étole comme des lapins avec un lacet, des hosties qui saignent d'un coup de couteau qu'un juif leur donne, des saints qui courent après leur tête quand on les leur a coupés. Une des légendes les plus avérées dans notre histoire ecclésiastique d'Allemagne est celle du bienheureux Pierre de Luxembourg, qui, dans les deux années 1388 et 89, après sa mort, fit 2400 miracles et les années suivantes 3000 de contes faits, parmi lesquels on ne nomme pourtant que 42 morts ressuscités. Je m'informe si les autres États de l'Europe ont des histoires ecclésiastiques aussi merveilleuses et aussi authentiques. Je trouve partout la même sagesse et la même certitude. 55. Pique ignorance. J'ai vu ensuite, pour quelle sottise inintelligible, les hommes s'étaient chargés les uns les autres d'imprécations. C'était détesté, persécuté, égorgé, pendu, roué et brûlé. Et j'ai dit, s'il y avait eu un sage dans ces abominables temps, il aurait donc fallu que ce sage vécût et mourût dans les déserts. 56. Commencement de la raison. Je vois qu'aujourd'hui, dans ce siècle qui est l'aurore de la raison, quelques têtes de cet hydre du fanatisme renaissent encore. Il paraît que leur poison est moins mortel et leur gueule moins dévorante. Le sang n'a pas coulé pour la grâce versatile, comme il coula si longtemps pour les indulgences plénières qu'on vendait au marché, mais le monstre subsiste encore. Quiconque recherchera la vérité risquera d'être persécuté. Faut-il rester oisif dans les ténèbres? Ou faut-il allumer un flambeau auquel l'envie et la calomnie rallumeront leurs torches? Pour moi, je crois que la vérité ne doit pas plus se cacher devant ces monstres, que l'on ne doit s'abstenir de prendre de la nourriture dans la crainte d'être empoisonné. Fin du philosophe ignorant.